La campagne électorale qui a précédé la dernière élection présidentielle française fut pleine de promesses pour le monde présent. Des promesses qui vous ont peut-être laissé sceptiques comme moi, par exemple. Le SMIC à 1700 euros brut. Personnellement, je vote pour. De la même manière, certaines promesses que Dieu nous fait pour le monde à venir peuvent parfois nous laisser sceptiques. Dans le passage que nous allons lire ensemble ce soir, Dieu nous fait en fait une promesse absolument extraordinaire. Abracadabrantesque. Une promesse à laquelle vous avez peut-être du mal à croire. La résurrection de notre corps. Comment est-ce possible? Comment un mort peut-il revenir physiquement à la vie? Mais c'est hallucinant! C'est invraisemblable. Eh bien, pour répondre à cette question, comment est-il possible qu'un corps revienne à la vie, qu'un corps mort revienne à la vie physiquement? Je vous renvoie notamment à la conférence de Yannick Imbert. Yannick Imbert est professeur d'apologétique, la défense raisonnée de la foi chrétienne à la faculté Jean Calvin, une faculté de théologie à Aix-en-Provence. Yannick Imbert, qui lors d'une de nos soirées à vous de voir, avait répondu à la question « Le christianisme est-il invraisemblable ?» Et il avait introduit son propos en attirant notre attention sur le fait que nous vivons dans un monde rempli d'événements complètement invraisemblables. Par exemple, au début du 19e siècle, qui aurait cru, mais qui aurait cru que les hommes allaient pouvoir marcher sur la Lune ? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Neil Armstrong, quelle année ? 20 juillet 1969, tout à fait. Qui aurait cru au début du 19e siècle que les hommes allaient pouvoir remplacer un cœur malade par un cœur sain prélevé sur un donneur ? Mais c'est hallucinant ! Comment est-ce possible ? Comment est-ce que mon cœur va pouvoir remplacer le cœur de Sephora, par exemple ? Mais c'est hallucinant comment tu fais, tu coupes, découpes avec des ciseaux, tu remplaces les cœurs. Eh oui, aujourd'hui c'est possible. La première greffe du cœur a eu lieu le 3 juillet 67. Et aujourd'hui 400 transplantations cardiaques, ont lieu chaque année en France. C'est possible. Alors à l'époque, au début du 19e siècle, bien entendu, ces prouesses techniques auraient été qualifiées d'invraisemblables, d'hallucinantes, peut-être pas d'abracadabrantesques. Parce que le monde n'existait pas à l'époque. Pourtant, ce sont des événements tout à fait vraisemblables aujourd'hui, non ? Peut-être pas banals, mais vraisemblables. Mes amis, et si ce n'était pas la résurrection du corps en soi qui était invraisemblable ? Et si ce n'était pas la résurrection d'un corps en soi qui était invraisemblable, mais notre conception du monde ? Qui nous empêchait de croire en la résurrection des morts. Est-ce que vous voyez la différence ? Ce n'est pas tant la résurrection d'un corps en soi qui est invraisemblable, mais c'est notre conception du monde qui nous empêche parfois de croire en certaines choses, dont la résurrection corporelle. Mes amis, et si la résurrection de Jésus était finalement tout à fait vraisemblable ? Et si la résurrection de notre propre corps était finalement tout à fait vraisemblable. Et bien, c'est précisément ce que l'apôtre Paul démontre dans le passage que je vous invite à lire ensemble, 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 35 à 58. Un passage un peu long, j'aurais peut-être dû demander à Alex de le lire au préalable, j'en suis désolé, mais c'est pas grave. Je le lis pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 35 à 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce mets corruptible, on ressuscite incorruptible. Ce mets méprisable, on ressuscite glorieux. Ce mets plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Ce mets corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ta victoire, pardon. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Dans les 19 premiers versets de ce chapitre, Paul a prouvé la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est sur la base de la résurrection corporelle de Jésus que dans les versets suivants, il a prouvé la résurrection des morts. Et c'est ainsi qu'il répond aux Corinthiens. Vous croyez en la résurrection de Jésus? Mais certains d'entre vous ne croient pas en la résurrection des morts, mais c'est absurde. Si Christ est ressuscité, si un mort est ressuscité, c'est la preuve que les morts ressuscitent. Non, c'est logique. Et dans la dernière partie de ce chapitre 15, il va répondre à la question de la nature du corps ressuscité. Il va répondre en disant, ceci en substance, il me semble, c'est que notre corps, votre corps, si vous êtes croyant, chrétien, disciple de Jésus, sera ressemblant à votre corps actuel, mais différent. Un corps ressemblant, mais différent. Et c'est ce que j'aimerais voir rapidement avec vous en trois points. Je vous rappelle que le plan de ce message est à la deuxième page du bulletin que vous avez, j'espère, entre les mains. Premièrement, notre corps sera changé. C'est ce que dit Paul des versets 35 à 44. Dans ces versets, où il est question de semences, de graines, de blé, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de soleil, de lune. L'apôtre n'est pas du tout en train de donner un cours de botanique, ou d'astronomie, non, le but de son propos est toujours éthique et théologique. Et à la question posée au verset 35, regardez encore la question que Paul pose au verset 35. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Qui est une question posée par les croyants de Corinthe. Il répond dans un premier temps que notre corps sera changé. Changé sur le modèle de deux réalités qui font partie de notre expérience quotidienne. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être oublié. Oui, j'ai certainement oublié une partie de la prédication. C'est très intéressant comme phénomène. Alors, on va essayer de les voir ensemble. Je me disais, il y avait bien 5 pages. Pourtant, oui, tout à fait. Alors, de mémoire, regardez les deux réalités sur lesquelles Paul s'appuie. Ça raccourcira le message, c'est pas grave. La première réalité sur laquelle Paul s'appuie, il me semble, c'est à partir donc du verset 37. Paul est en train de prendre l'exemple d'une graine que l'on plante dans la terre et qui devient une plante. Mais nous avons tous fait cette expérience à l'école. Emma, qui est à la crèche, a eu l'occasion la semaine dernière de planter une graine qui est devenue une belle petite plante qu'il suffit d'arroser tous les jours pour qu'elle pousse, qu'elle pousse, qu'elle pousse. Et dans ce cas, la mort n'est pas du tout un obstacle à la transformation de la graine, n'est-ce pas? Mais la mort est au contraire la condition de la transformation de la graine. Donc vous voyez, la mort n'est pas du tout un obstacle à la transformation du corps en question, pas du tout. C'est la condition. La graine meurt pour se transformer, se changer en plante. C'est l'exemple que Paul est en train de donner notamment au verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, un blé peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc le premier exemple sur lequel Paul s'appuie pour décrire finalement le caractère vraisemblable de la résurrection, c'est la transformation d'une graine en plante, qui passe par la mort. La mort n'étant pas du tout un obstacle, mais la condition du changement, c'est clair ? Et puis la deuxième réalité de la vie quotidienne sur laquelle Paul s'appuie, à partir du verset 40, c'est la diversité des corps célestes, mais aussi l'éclat des corps célestes et celui des corps terrestres. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Je pense qu'il est en train de dire que si Dieu, dans sa puissance créatrice, a créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, l'implication du verbe bara en hébreu, à partir de rien, sans matériaux préexistants. Si Dieu a créé ex nihilo à partir de rien, au début il n'y avait rien. Même la cosmologie moderne s'accorde pour dire qu'au début il n'y avait rien. Avant le Big Bang, il n'y avait rien. Je sais que la cosmologie est un peu une science spéculative, mais la plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'avant il n'y avait pas grand-chose. Sinon rien. Si Dieu est capable de créer quelque chose ex nihilo, et si dans sa puissance créatrice, il est aussi capable de créer une diversité de corps, des corps célestes, des corps terrestres, diversité de chair, la chair des poissons, la chair des hommes, qu'est-ce qui l'empêche de créer quelque chose de différent ? Est-ce que vous voyez la logique ? D'une part, donc, il s'appuie sur deux réalités. La première, c'est la réalité d'une graine qui se transforme en plante. La deuxième réalité, c'est la diversité des corps et la diversité des chairs que Dieu a créées et qui ne l'empêche en aucun cas de créer un autre corps différent, mais ressemblant au nôtre. Différent, mais ressemblant. Donc premièrement, notre corps sera changé, des versets 35 à 44. Deuxièmement, cette fois j'ai mes notes, notre corps sera céleste, versets 45 à 49. Notre corps sera changé en un corps céleste, c'est-à-dire adapté à la vie spirituelle au ciel dans le royaume de Dieu. Mais ce changement se fera selon un certain ordre. Regardez la logique du verset 49. Le corps naturel caractérisé par une nature déchue doit précéder le corps céleste ou spirituel. Ce qui ne veut pas dire immatériel d'ailleurs. Regardons encore le verset 49. De la même manière que nous portons d'abord l'image ou la marque du premier Adam, Adam, l'homme de la terre, l'homme de la poussière, dans le monde présent, nous porterons ensuite l'image de qui ? L'image du dernier Adam, l'homme du ciel, Jésus, dans le monde à venir. Et si vous avez une question sur cette phrase un peu énigmatique au verset 45, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, je vous donne rendez-vous sur le canapé, à la fin du culte, autour d'un bon verre de coca et d'une bonne part de gâteau de mec, pour en discuter. C'est un verset que le témoin de Jéhovah utilise notamment pour dire que Jésus est aujourd'hui un esprit. Et le contexte nous fait comprendre que le corps dont l'entité dont Paul parle dans ce chapitre est un corps. Il parle d'ailleurs de corps spirituel. Corps spirituel. Ok ? Au verset 44. Un corps spirituel. Pas uniquement un esprit. En tout cas, c'est sur le modèle de Jésus, hein, dont le corps est aujourd'hui ressuscité. C'est sur ce modèle que notre corps sera donc céleste et combinera des éléments de continuité. Notre corps sera semblable, ressemblant à notre corps actuel, et des éléments de discontinuité. Notre corps sera aussi bel et bien différent. Autrement dit, la résurrection, c'est la même personne qui revient à la vie, Alexandre Saran, Meg Chintrier, Sephora Campois. La résurrection, c'est la même personne qui revient à la vie, mais avec un corps différent, changé, céleste, et enfin recouvert ou couvert d'incorruptibilité. C'est le troisième et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, les versets 50 à 57. Regardons encore le verset 52, dans lequel Paul est assez explicite. Hein. Les morts ressusciteront comment ? Incorruptibles. À ne pas confondre avec les incorruptibles. Un magazine bien connu des amateurs de musique et de cinéma aussi. Verset 53. Il faut en effet que ce corps Corruptible revêt quoi? L'incorruptibilité. Au Scrabble, ça, mot contre triple, c'est pas mal. 54. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu, aura revêtu l'incorruptibilité. Autrement dit, le message est clair, notre corps sera couvert d'incorruptibilité. Et la question qui se pose et que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi faut-il que ce corps revête l'incorruptibilité? Au verset 53, Paul dit il faut. Pourquoi? Eh bien, je crois que la réponse est dans le texte, verset 50, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu au ciel, dans notre corps actuel. Regardez encore le verset 50 avec moi. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Cette expression à la chair et le sang ne fait pas simplement référence à notre corps physique fait de chair et de sang, hein, finalement. Je crois à l'homme dans sa globalité, corps et âme. Un homme pécheur qui a besoin d'être transformé de la tête aux pieds, de la cave au grenier, de fond en comble pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Et une histoire que vous aimez bien va peut-être nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme assoiffé dans le désert? Non? Ok. Donc l'histoire d'un homme assoiffé dans le désert qui rencontre un marchand de cravates. Bonjour, je suis un marchand de cravates, 1 € la cravate. Et là, l'homme assoiffé dans le désert lui dit, merci mon bon ami, vous êtes bien gentil, vos cravates sont très belles, mais je n'ai pas besoin d'une cravate. Il fait 50 degrés à l'ombre, ce dont j'ai besoin, c'est un bon verre d'eau bien fraîche. Merci. Il passe sa route, et 3 km plus loin, l'homme est en train de suer sang et eau, et il retrouve le même marchand de cravates. 50 centimes la cravate. Et là, notre ami un peu dépité, écoutez, merci beaucoup, mais je vous aime bien, mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une cravate aujourd'hui. D'un bon verre de coca, avec des glaçons, s'il vous plaît. 2 km plus loin, il recroise le même homme, figurez-vous. Cravate, une cravate achetée pour une cravate gratuite pour une cravate achetée. Voilà, notre ami désespéré, il cède à la tentation, non? Non, non. Ce dont il a besoin, c'est d'un bon verre d'eau de limonade. Un bon verre de limonade, pardon. Pas d'une cravate. Notre homme passe sa route. Et là, il commence à distinguer une silhouette à l'horizon. Ce n'est pas un mirage. C'est un palais majestueux. Il s'approche de ce palais majestueux. Il colle son oreille contre la porte d'entrée. Et là, il entend l'eau d'une fontaine clapoter. Il frappe à la porte. Et là, un majordome habillé comme un prince lui ouvre. Et là, l'homme assoiffé lui demande « Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, monsieur. J'ai très, très soif. » Et le majordome de lui répondre « Désolé, on n'entre pas sans cravate ici. Tenue correcte, exigée. » Une autre. Bon, d'accord. Non, je rigole. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? De la même manière que cet homme ne peut pas rentrer dans ce palais somptueux sans cravate, de la même manière que nous ne pouvons pas rentrer dans certains casinos en jean et en basket. Regardez Ocean's 12 ou Ocean's 11 si vous ne me croyez pas. De la même manière que nous ne pouvons pas rentrer sans avoir une tenue correcte exigée dans ces endroits-là. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu au ciel. La fleur au fusil, comme disait ma grand-mère. Dans notre corps actuel, une transformation radicale est nécessaire. Et cette transformation consiste en un revêtement d'incorruptibilité qui se refera en un atome, littéralement dans le grec. Une fraction de seconde tellement courte qu'elle ne peut être divisée. Un atome. En un clin d'œil, au son de la trompette, un instrument souvent associé, n'est-ce pas, au jour du jugement, qui serait inauguré par le retour de Jésus. Et ce jour-là s'accomplira la parole qui est écrite. Regardez encore le verset 54 et le verset 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous reconnaissez peut-être dans ce verset un passage de l'Ancien Testament, deux peut-être. Ésaïe 25, verset 8, et Osée 13, verset 14. C'est peut-être ce que vos Bibles vous précisent dans le cadre d'une note de bas de page. En tout cas, ces deux passages annoncent la victoire définitive de Dieu sur ses ennemis, et notamment sur la mort, le dernier ennemi. Une victoire acquise par Jésus, qui a satisfait à toutes les exigences de la loi, qui a accepté de mourir à notre place, pour accepter de subir le jugement que nous méritions, et qui est ressuscité. La résurrection était la preuve de sa résurrection sur la mort, n'est-ce pas? Mais tenez-vous bien, c'est une victoire à laquelle Jésus, dans sa grâce, nous associe, dont il nous fait bénéficier. Regardez encore le verset 27. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez comment Dieu, dans sa grâce, nous associe à la victoire de Jésus sur la mort par la foi, en vertu de l'union avec son Fils, le Seigneur Jésus. Connaissez-vous Johnny Erickson? C'est une femme qui fut victime d'un accident de plongée à 17 ans. Et qui est un accident qui l'a laissé paralysée de la tête aux pieds. J'ai littéralement bu ses paroles dans son livre autobiographique intitulé Johnny, tout simplement. J-O-N-I. Voilà ce qu'elle dit dans un témoignage qui est paru dans un autre livre. Paralysée de la tête aux pieds. J'ai l'espoir pour l'avenir. La Bible parle de nos corps qui seront glorifiés. Et je sais que cela veut dire ce que cela veut dire maintenant. Il s'agit du temps où, après ma mort ici-bas, je serai sur mes pieds en train de danser. C'est de l'espoir pour le quadraplégique. C'est de l'espoir pour tous ceux qui ici-bas ont des problèmes physiques, psychologiques ou émotionnels. Vous en serez débarrassés dans le nouveau corps qui sera le vôtre. Un jour. C'est beau, n'est-ce pas? Un jour, Johnny Erickson capable de danser, alors qu'elle ne peut plus bouger que la tête. Alors la mort reste un ennemi redoutable, c'est vrai, la mort reste un ennemi redoutable. Mais pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ, c'est un ennemi vaincu. Les souffrances que nous vivons dans ce monde, les souffrances que vous vivez peut-être aujourd'hui, auxquelles vous êtes peut-être en train de penser même en ce moment, aussi terribles soient-elles, sont temporaires. Leur fin est proche. Un jour, sur le modèle de la résurrection corporelle de Jésus, nous ressusciterons dans un corps changé, dans un corps céleste, c'est-à-dire adapté à la vie spirituelle, dans un corps couvert d'incorruptibilité. En un seul mot, notre corps sera ressemblant à notre corps actuel, mais différent. Ressemblant, c'est vrai, mais différent. Concrètement, éthiquement, moralement, comment vivre en attendant le jour de la résurrection de notre corps? Eh bien, je pense que la réponse se trouve au verset 58, notamment. Paul avait déjà un peu parlé des implications de la résurrection de Jésus. Des versets 29 à 34, il avait parlé de la nécessité de mener le bon combat de l'évangile et de la sainteté. Mais regardez le verset 58, qui conclut toute sa démonstration du chapitre. Comment vivre en attendant le jour où nous serons ressuscités, verset 58, en étant ferme, inébranlable, en progressant littéralement, en surabondant dans le travail, dans l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail n'est jamais en vain pour le Seigneur. Autrement dit, en persévérant dans la confiance en la mort et en la résurrection de Jésus. Et en progressant dans l'annonce de cette mort et de cette résurrection. Je pense que c'est ce qu'il dit au verset 58, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous pour conclure. Premièrement, j'aimerais voir avec vous que la résurrection donne un sens non seulement au travail, mais aussi à la vie. Ce sont mes deux derniers points sur le plan. Le travail dont il est question au verset 58 peut faire référence à l'évangile, n'est-ce pas? Que nous cherchons à annoncer dans le cadre de nos églises locales. Et ce travail n'est pas toujours facile. Je n'apprends rien à certains d'entre vous qui sont pasteurs. Parmi nous, si l'annonce de l'évangile était facile, je pense que ça se saurait. À quoi bon inviter mes amis à l'église le dimanche après-midi? À quoi bon? À quoi ça sert? Ils sont tellement indifférents à la foi chrétienne, voire même hostiles. Vous ne vous êtes jamais posé ces questions? Je me les pose parfois. Mais si la vie se limite au monde présent, s'il n'y a pas de vie après la mort, si les morts ne ressuscitent pas, s'il n'y a pas de résurrection, en effet, à quoi bon? Cela ne sert strictement à rien. Mais la vie ne se limite pas en temps présent. Il y a une vie après la mort, il y a la résurrection. Et dans sa souveraineté, vous savez, Dieu peut véritablement permettre que nous ne voyons le fruit de notre travail qu'au jour de la résurrection. Que dans le monde à venir, peut-être pour nous rendre plus humbles, dépendant de lui dans la prière, je n'oublierai jamais cette histoire, l'histoire de cet homme, Frank Jenner, en Australie, qui avait passé sa vie à distribuer des tracts dans une rue très populaire de Sydney, appelée George Street. Mec, je ne sais pas si tu connais George Street. Il n'a jamais vu personne se convertir suite à la distribution de milliers de tracts. Sauf qu'un jour, un pasteur britannique a fait la connaissance de 4 personnes qui se sont converties après avoir reçu un tract de ce même homme. Sauf que notre ami ne l'a jamais su. En fait, si, il l'a su. 2 semaines avant de mourir. Ce pasteur est allé lui rendre visite. Il lui a dit, vous savez, monsieur, j'ai rencontré 4 personnes. 4 personnes qui sont aujourd'hui devenues chrétiennes après avoir reçu un tract de vos mains. Un militaire en permission qui était en train de rejeter un fiancé. Ces gens-là se sont convertis. Cet homme en a pleuré. Il n'avait jamais vu personne se convertir après avoir distribué des milliers de tracts. Qui sait, le Seigneur peut vouloir nous faire dépendre de lui dans la prière, dans la dépendance de lui. S'il ne nous permet pas de voir des fruits dans cette vie. Mais le travail dont il est question au verset 58 peut aussi faire référence de manière plus générale à toute activité humaine dont le but est de glorifier le Seigneur, que ce soit à la maison, à la fac, et même au travail. Encore une fois, à quoi bon inviter mes amis à l'église? À quoi bon vivre ma foi au bureau, un monde où règne parfois l'égoïsme, la corruption, et l'injustice et le mensonge? Quel intérêt y a-t-il à penser aux autres plutôt qu'à moi-même? À refuser de mentir, de tricher? À quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, si la vie se limite au monde présent, s'il n'y a pas de vie après la mort, s'il n'y a pas de résurrection, si les morts ne ressuscitent pas, en effet, à quoi bon? Tout cela ne rime strictement à rien, mais la vie ne se limite pas au monde présent. Il y a une vie après la mort, il y a la résurrection. Le jour où Jésus reviendra, il inaugurera un monde nouveau, où Dieu jugera les vivants et les morts, et où il tiendra compte de notre façon de vivre. Et je crois que ce jugement inclut également les croyants. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Christ Jésus, Romains chapitre 8, verset 1, mais cela ne nous empêche pas, cela ne nous dispense pas de l'obéissance. Au contraire, c'est une motivation à l'obéissance. Non pas dans le but d'être sauvés, mais parce que nous le sommes déjà. Parce que Christ a tout accompli. La grâce devait être une motivation à l'obéissance. La résurrection donne donc un sens au travail. Au travail que vous faites pour Dieu, à la maison, à la fac, au travail, à l'église, mais aussi finalement à la vie. Vous connaissez peut-être Léon Tolstoï. On a eu la chance avec Mec d'habiter au 139 cours Tolstoï, à Villeurbanne. Bon, c'était pas un quartier très glorieux, vous allez me dire, ni très chrétien d'ailleurs, mais bon. Voici ce qu'il écrit dans sa confession, une sorte d'autobiographie morale. « Ma question, celle qui, à 50 ans, me conduisait au suicide, était des plus simples. Elle est dans l'âme de tout homme, depuis l'enfant stupide jusqu'au plus sage vieillard. Sans elle, la vie est impossible, comme je l'ai éprouvé moi-même. Voici en quoi elle consistait. Qu'est-ce qui sortira de ce que je fais aujourd'hui? De ce que je ferai demain? Qu'est-ce qui sortira de toute ma vie? On peut encore la formuler ainsi. Pourquoi dois-je vivre? Pourquoi dois-je faire quelque chose? Ou encore autrement, y a-t-il un but, pardon, y a-t-il dans la vie un but qui ne se détruise pas par la mort inévitable qui m'attend? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Je vous le suis posé. Et à cette question, la réponse est claire, nette et précise. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Léon Tolstoï. Vous savez quoi? Il y a la résurrection. La résurrection donne non seulement un sens au travail, mais aussi à la vie. Et c'est la réponse, peut-être, de Paul au livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Non. Non. Le mot vain revient 5 fois dans 1 Corinthiens 15. La vie n'est pas vaine. elle a bel et bien un sens à la lumière de la résurrection, à la lumière de la vie après la mort et de l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce que ton Fils, le Seigneur Jésus, est non seulement mort à notre place, crucifié pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité pour notre espérance vivante. La résurrection de Jésus est un fondement historique, biblique, qui a des retentissements sur notre foi validée, sur nos péchés pardonnés. La victoire est assurée parce que Christ est ressuscité. Mais le combat continue, le combat de la sainteté, le combat de l'Évangile. Et en attendant, Seigneur, de ressusciter nous-mêmes, dans un corps changé, céleste et couvert d'incorruptibilité, nous prions pour que tu nous aides à mener le combat de l'Évangile, de la sainteté, et à demeurer ferme dans notre confiance en toi, inébranlable, à progresser, à surabonder dans l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail n'est pas en vain pour le Seigneur, à la lumière de la résurrection, de la vie après la mort et de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.